Voilà la première épître de Pierre, le chapitre 1er, le verset 3, où il est écrit, première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Amen. » Voilà. Et je veux particulièrement attirer votre attention sur ce dernier verset que nous avons lu, le verset 5. « Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut. » Gardés pour le salut. Gardés pour le salut. C'est-à-dire que le salut, la vie éternelle que nous avons reçue, la part du Seigneur, eh bien, justement, il faut l'avoir un jour reçu dans notre vie. Mais après l'avoir reçu, il s'agit de le maintenir. Il s'agit de le conserver, ce salut. Il s'agit d'y demeurer pour qu'un jour, eh bien, comme il est écrit là, nous puissions entrer effectivement en pleine possession de cet héritage merveilleux que Dieu, par Jésus-Christ, a mis en réserve pour nous, dans les cieux. Être gardé pour le salut. Moi, je tiens à mon salut, pas vous? Voilà, c'est ce que j'ai de plus précieux. J'aime ma femme, j'ai pas honte de dire, hein. J'aime mes enfants, je vous aime aussi. Mais l'élément le plus précieux dans ma vie, voyez, au-delà même du ministère que le Seigneur a bien voulu m'accorder, c'est le salut de mon âme. C'est, comme dit cantique, certains cantiques, c'est ma richesse, c'est ma gloire, c'est mon héritage. Et ce salut, eh bien, je veux le conserver, je veux le maintenir pour y entrer en pleine possession de ce salut. Alors, justement, quant à la réalité de notre salut, deux vérités non pas contradictoires, même si elles peuvent apparaître parfois, mais deux vérités plutôt complémentaires sont révélées par la parole de Dieu. La première vérité, c'est l'entière responsabilité humaine. Je suis responsable pleinement des choix que je fais. Voilà. Et pour être sauvé, il faut que je réponde à l'appel que Dieu m'a adressé au travers de la prédication de l'Évangile. Et je pense que la plupart d'entre nous, c'est ce que nous avons fait un jour, alors que nous étions dans l'ignorance la plus complète, n'est-ce pas ? Alors que nous étions loin du Seigneur, que nous ne le cherchions pas, eh bien, lui nous a cherché, nous a fait entendre ce merveilleux message. Et vous savez, on peut résumer, en quelque sorte, le message tout entier de l'Évangile à ce verbe « venez ». Voilà, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et un jour, nous avons répondu à l'appel divin, nous sommes venus vers le Seigneur, réalisant notre misère, notre égarement, notre péché, nous avons voulu qu'il nous sauve et ce salut merveilleux qui était à portée de main, puisque tout a été accompli sur la croix pour que nous soyons sauvés, nous l'avons accepté. Ça, c'est l'entière responsabilité humaine. Deuxième vérité que nous enseigne la parole de Dieu, c'est l'absolue souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui nous sauve. Amen. Et nous n'y sommes pour rien. Et paradoxalement, même si nous avons pu répondre à l'appel de la grâce qui nous a été adressé, c'est Dieu qui l'a fait. C'est pourquoi dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, au verset 16, vous vérifierez à la maison, il est dit, « Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Vous avez donc ces deux vérités qui sont simultanément présentées par la parole de Dieu, l'entière responsabilité humaine. Je dois répondre à l'appel du Seigneur pour être sauvé. Et l'absolu, d'autre part, l'absolue souveraineté de Dieu, puisque c'est lui seul qui nous sauve. Alors, il en résulte que pour assurer notre salut, pour s'y maintenir, deux éléments sont nécessaires. D'abord, du fait justement de notre responsabilité personnelle, après avoir été sauvés, il est nécessaire pour nous que nous restions vigilants. Vigilants. Voilà, vigilants. Si vous avez quelque chose de précieux, un trésor, un bijou de valeur, eh bien, vous allez veiller sur ça comme le lait sur le feu. Voilà. Notre propre vigilance. Voilà, ça c'est notre part. Et puis d'autre part, il y a la grâce que notre Père Céleste a résolu de nous accorder en son Fils Jésus-Christ. Voilà, ma vigilance, mais aussi la grâce de Dieu. Ma part, elle me revient, et Dieu ne le fera pas à ma place, mais il y a aussi la part de Dieu, et nous pouvons être pleinement confiants, entièrement convaincus, que sa part, il l'assumera parfaitement. Alléluia. Alors, nous allons examiner un petit peu en détail ces deux domaines. D'abord, notre propre vigilance, puis ensuite, les effets et les manifestations de la grâce de Dieu, pour que, d'une part par notre propre vigilance, d'autre part par l'effet de la grâce de Dieu, nous soyons maintenus dans le salut. D'abord, en ce qui concerne notre propre vigilance, vous avez souvent noté, je pense, dans le Nouveau Testament, que cette exhortation revient dans les propos du Seigneur Jésus lui-même, ou dans les écrits des apôtres, « Veillez, veillez, dit le Seigneur, parce que vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Ailleurs, il est dit « Veillez, afin que personne ne vienne vous séduire. Prenez garde, dira encore le Seigneur par ailleurs. » Qu'est-ce que c'est qui va donc nous permettre de demeurer en état de veille spirituelle, de ne pas nous assoupir, spirituellement parlant, de ne pas nous avachir, de ne pas nous endormir, de ne pas nous laisser aller, mais de veiller. D'abord, et je pense que c'est là un élément essentiel, il y a la crainte de Dieu. Hein? Il y a des gens qui pensent que la crainte de Dieu, c'était bon pour les gens de l'Ancien Testament, voilà, le Dieu terrible qui apparaît sur le mont Sinaï, alors au bas de la montagne, tout le monde tremble, ils ont une frousse terrible, une peur épouvantable, la crainte de Dieu. Mais quand on lit les textes du Nouveau Testament, on s'aperçoit que la crainte de Dieu, c'est aussi pour nous qui avons reçu la grâce en Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Hébreux, j'ai oublié la référence précise, il est dit que nous devons rendre notre culte à Dieu avec crainte et tremblement. C'est écrit. C'est quoi la crainte de Dieu? Vous connaissez ce verset qui dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et puis, dans le livre des Proverbes, chapitre 8, verset 13, il dit que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Voilà ce qui va me permettre de rester vigilant, haïr le mal, pas chez les autres, ça c'est pas trop difficile, mais haïr le mal en soi, le dénoncer, le rejeter, le refuser, et lorsque, eh bien, il nous arrive de le commettre, s'en humilier sincèrement et profondément devant Dieu. La crainte de Dieu. Ça n'a rien à voir, cette crainte, je le précise, avec la crainte servile, la crainte d'un esclave qui est terrorisé par son maître et qui a peur que, eh bien, le ciel lui dégringole sur la tête. Non, c'est la crainte filiale d'un fils aimant envers son père Père qui ne veut pas offenser, Père qui ne veut pas affliger par ses mauvais comportements. La crainte de Dieu, ça nous maintient en état de veille, de vigilance spirituelle. Ce qui nous maintient aussi en état de vigilance, c'est l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu. L'apôtre Jean dira, nous l'aimons, pourquoi ? Parce qu'il nous a appris à l'aimer. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Hein? Et ailleurs, il est dit que, toujours dans l'épître de Jean, que l'amour de Dieu consiste à pratiquer, à garder, à observer, à appliquer ses commandements. Tu peux chanter des cantiques qui parlent de l'amour de Dieu. Tu peux lui dire, Seigneur, je t'aime sur tous les tons. Tu peux faire des prières tonitruantes. Tu peux avoir une adoration fracassante, mais si par ailleurs, eh bien, tu te permets de transgresser en toute connaissance de cause la parole de Dieu, c'est pas vrai, tu l'aimes pas. En tout cas, tu l'aimes pas comme tu devrais l'aimer. Parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et quand on a l'amour de Dieu, ça nous permet d'être vigilants. Voyez ? Alors, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, et puis aussi la conscience. Que notre propre nature humaine n'est pas fiable. Parce que notre nature humaine est une nature pécheresse. Ça, c'est clair. Hein? D'ailleurs, le livre des Proverbes, là non plus, je n'ai pas noté la référence, nous dit que celui qui a confiance en son propre cœur, c'est un insensé. C'est un fou. Celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. Certes, nous avons été rendus participants, nous dit l'épître de Pierre, la deuxième épître de Pierre, rendus participants de la nature divine. Vous voyez, ça c'est partie prenante de la nouvelle naissance. Nous avons reçu une nouvelle nature divine. Qui a été implanté en nous par le Saint-Esprit lorsque nous nous sommes convertis. Mais ne vous faites pas d'illusions. Même si vous avez reçu une nature nouvelle, et c'est le cas pour ceux qui se sont réellement convertis, l'ancienne nature, elle est toujours là, mes amis. Elle est toujours là, elle n'est pas totalement éradiquée. Ça, ce sera le cas seulement quand nous entrerons dans la gloire du ciel. Pour le moment, les deux cohabitent. L'ancienne et la nouvelle. Et ce n'est pas une cohabitation paisible, vous voyez. Il y a affrontement. Est-ce que on sent cela en chacun de nous, hein, nous qui sommes chrétiens. Affrontement entre la nouvelle nature, la nature de Dieu qui veut créer en nous de bons sentiments, un bon état d'esprit, des comportements qui honorent le Seigneur, et puis notre ancienne nature qui voudrait nous tirer en arrière, nous ramener à ce que nous étions autrefois. Et il y a un combat, et le sens du combat, c'est de faire en sorte que par l'Esprit de Dieu qui vit en nous, la nature humaine soit neutralisée, soit terrassée, soit vaincue, soit même crucifiée, en tout cas soit rendue inopérante, et que la nouvelle nature, elle, puisse s'affirmer et prévaloir dans notre vie. Alléluia. Il faut que ce soit la nature nouvelle qui est le dernier mot, disons-le comme ça. Donc, notre propre vigilance, eh bien, elle est faite de crainte de Dieu, d'amour de Dieu et de conscience que nous devons avoir que rien de bien, rien de fiable ne peut venir de nous-mêmes. Maintenant, pour assurer notre vigilance, Dieu a mis à notre disposition des outils, des armes, des moyens efficaces. L'Écriture dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, voyez, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Parfois dans nos cœurs, dans nos vies, il y a des forteresses. Et le diable est là comme pour nous dire, non, dans ce domaine-là, eh bien, tu vas pas gagner la partie. Mais si nous utilisons les bons moyens, la forteresse va s'écrouler, le diable, eh bien, il s'enfuira, et le Seigneur sera vainqueur en nous, sera vainqueur pour nous, et sera même vainqueur de nous. Alors, quelles sont ces armes? Oh, c'est pas compliqué ce que je vous dis. Les armes, c'est par exemple la parole de Dieu. On connaît ces versets. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'emprès ta parole? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Une lampe à mon pied. Aujourd'hui, on a des lampes formidables. Hein. Peut-être vous avez une torche là avec une puissance extraordinaire. Ça vous éclaire à 200 mètres. Hein. Mais à l'époque, c'était pas du tout ça, vous voyez. À l'époque, c'était des petites lampes à huile, de telle sorte que lorsque vous cheminiez dans la nuit, parce qu'il n'y avait pas des lampadaires, il n'y avait pas tout ce système électrique que nous avons aujourd'hui, eh bien, la lueur de la lampe n'éclairait que le pas suivant, voyez, un mètre ou deux pour avancer peu à peu. Eh bien, c'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une lampe qui, pas à pas, durant toute notre vie, nous permet de repérer les obstacles, les pièges que le diable ne manquera pas de susciter sur notre route. Et cette lampe nous permet donc de repérer les obstacles et les pièges afin de les éviter et ainsi de ne pas trébucher. Et nous avons besoin, eh bien, pour maintenir cette vigilance, voyez, d'un contact régulier et personnel avec la parole de Dieu, dans un esprit d'obéissance, dans un désir authentique de se laisser façonner, influencer, former, corriger par la parole, afin de nous permettre de rester vigilants. Dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 3, au verset 16, il y a là un verset capital qui nous parle de l'influence que la parole de Dieu doit exercer dans la vie des croyants. Je lis pour vous, et il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, complet, si vous voulez, accompli, complet, et propre à toute bonne œuvre. Il faut ce contact avec la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci, mes amis. Laissez un petit peu tomber les sites internet, même les sites chrétiens. N'essayez pas de trouver quelque chose de seconde main. Vous-même, là, le nez dans votre Bible, hein? L'Écriture dit, plongez les regards et à la lumière de l'Esprit de Dieu, avec le secours de la grâce que vous aurez demandé, Seigneur, donne-moi de comprendre cette parole. Lisez-la, méditez-la, réfléchissez personnellement, non pas au travers de l'interprétation de je ne sais qui, je ne sais quoi, mais simplement sous le regard de Dieu, pour que cette parole vous influence, vous, pour qu'elle vous marque, pour qu'elle pénètre dans votre cœur. Il y a des choses très bonnes ici et là, je le sais, mais ça ne vaut pas un contact personnel avec la parole de Dieu. Il y a des choses que Dieu a à vous dire, rien qu'à vous, au travers de cette parole. Et pour vous les dire, il ne va pas passer par X ou par Y, il va par son esprit vous les révéler lorsque vous ouvrirez le texte sacré et lorsque dans un esprit d'obéissance et de foi, vous considérerez ce que cette parole divine vous enseigne. Contact avec la parole de Dieu. Deuxième élément, deuxième arme, deuxième outil, si je puis dire, l'Esprit de Dieu. Ah, l'Esprit de Dieu. Vous rappelez la parabole des 10 vierges? Qui connaît la parabole des 10 vierges? Bon, beaucoup. Hein? Alors, c'est en Israël, c'est dans un contexte culturel particulier. Les noces en Israël se déroulaient de nuit. Et voilà comment ça se passait. Hein? Le marié sortait de chez lui, il allait chercher sa future, enfin sa fiancée, chez les parents de la fiancée, et puis le jeune couple rejoignait la maison du fiancé, et là, il y avait le repas de noces de nuit. Et alors, il y avait toute une équipe là de jeunes filles qui accompagnaient la jeune épousée, vous voyez. Et là, dans la Bible, Jésus nous parle de 10 filles hein, qui ont été invitées aux noces Alors, il y en a qui ont la tête sur les épaules, et puis d'autres, comme on peut l'être des fois quand on est un petit peu jeune, un petit peu fofolle. Celles qui avaient de la jugeote, elles ont pris, avec leur lampe, une provision d'huile. Mais les autres, ben, elles se sont dit, on verra bien. Hein. Et puis, l'époux tardé. Vous savez que les mariés sont toujours en retard. Hein. Alors, elles se sont assoupies, se sont endormies. Et puis, au milieu de la nuit, le cri a retenti. L'époux arrive, l'époux est là. Alors, elles ont commencé à fourguer leur lampe. Mais, figurez-vous, la provision, elle diminuait, parce que le temps avait passé. Alors, celle qui avait une fiole, un réservoir, elles ont rempli leur lampe à nouveau, mais les autres, ça a commencé à fumer, ça a commencé à s'étioler, et ça a fini par s'éteindre. Et pendant qu'elles couraient chez le marchand, elles ont dû le réveiller en pleine nuit, celui-là, pour acheter de l'huile, l'époux est arrivé. Celle qui était prête, de ma foi, elles sont rentrées avec lui dans la salle de noces. Et les autres, quand elles sont arrivées, la porte était close. Elles ont eu beau frapper, de l'autre côté, on leur a dit, non, vous rentrez pas. On vous connaît pas, c'est fini, après l'heure, c'est pas l'heure. Hein. Et ça, c'est une leçon, vous voyez. On a un cantique qui dit, mets de l'huile dans ma lampe. On sait que l'huile, dans la Bible, on va pas entrer dans le détail, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et c'est le symbole, c'est le Saint-Esprit qui va nous permettre d'être trouvés prêts. Qui place en nous la lumière divine et qui nous permet de rester vigilants malgré les ténèbres. Je parle là de ténèbres spirituelles qui s'épaississent, mes amis. C'est le Saint-Esprit qui allume en nous cette flamme intérieure qui fait qu'on veut être prêt, alléluia, pour la venue de Jésus. On ne veut surtout pas rater ça. On ne veut pas être de l'autre côté de la porte. On ne veut pas se trouver un jour en train de cogner à la porte du ciel en disant « Seigneur, ouvre-nous » et que le Seigneur de l'autre côté nous dise « Je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. » La parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, la prière. Vous voyez que c'est simple ça. Hein? Quand tu pries, viens, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Il y a une traduction, j'aime bien ça, qui dit « Va dans la pièce la plus retirée, verrouille la porte, tu fermes à clé même. Hein » C'est moi qui l'ajoute. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. La prière personnelle, l'intimité avec notre Père, auprès duquel nous avons, nous dit un texte de l'Écriture, la liberté de tout dire. Vous comprenez ça? Vous pouvez tout lui dire à votre Père Céleste, même vos luttes intérieures, même ce dont vous n'êtes pas fier, même ces pressions, ces pensées, ces idées mauvaises qui parfois, mais oui, on est fait tous du même bois, surgissent en nous, vous pouvez lui parler de cela. Vos combats intérieurs, vos combats personnels, là où personne n'a accès, la liberté de tout dire. D'ouvrir votre cœur pour qu'il vous aide, pour qu'il nous aide dans notre faiblesse naturelle. C'est ça qui va nous permettre de rester vigilants, vous voyez. Pas des gens extraordinaires, il n'y en a pas des gens extraordinaires. Il n'y a que Jésus qui est extraordinaire. Nous sommes des gens tout à fait ordinaires. Plus que ça, ce n'est pas possible. Mais nous avons un Seigneur extraordinaire. Et lorsqu'on se jette à genoux devant lui, est-ce que ça vous arrive? Littéralement, peut-être même face contre terre, en lui disant, Seigneur, tu vois encore dans mon cœur, ah, c'est pas brillant ce qui est en moi, fais-moi grâce, purifie-moi, pardonne-moi, change-moi, mets en moi de nouveaux sentiments, de nouvelles pensées, de nouvelles attitudes. Et il va nous aider. Et ça, ça nous rend vigilants. Et puis, parmi les outils, parmi les armes, il y a la communion fraternelle. Alléluia. On a besoin de l'Église et l'Église a besoin de nous. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 4, verset 9, il est dit « Deux valent mieux qu'un, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur, c'est écrit, hein, malheur à celui qui tombe et qui n'a personne pour le relever. » Vous savez, les gens qui disent « moi, je ne dépends que de Dieu. D'abord, c'est des gens qui sont remplis d'orgueil, et puis c'est pas vrai. Parce que si je dépends de Dieu, je comprends aussi que j'ai besoin de mes frères et de mes sœurs. Vous savez ça? Dans l'Épître aux Hébreux, il y a ce verset ultra classique où il dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. » Voyez, par le biais de la relation fraternelle, de la vie d'Église, parce que c'est ça dont il s'agit, nous assurons notre sécurité les uns par les autres. Vous veillez sur moi, mais oui, mais oui. Et moi, je veille sur vous. Et comme ça, on y arrive. Lorsque on s'aperçoit qu'il y a un frère qui est un peu flagada, hein, ça fait 10 semaines qu'on ne le voit plus, on s'inquiète de lui. Alors on prie le Seigneur, peut-être on lui envoie un SMS, un petit message, hein, par email, un coup de fil. On va le voir, non pas avec la grosse Bible sous le bras en disant « Frère, je viens t'exhorter ». Non, mais en lui témoignant de l'affection fraternelle. C'est tout. Tiens, j'ai pensé à toi, je viens te dire un petit bonjour. Ah, eh bien ça fait du bien. Oui, un frère qui a décroché me disait « C'est vrai, j'ai abandonné l'église ». D'accord, ok. Mais ce frère me disait, après que je sois parti, personne ne s'est inquiété de ce que je devenais. Ça, mes amis, c'est honteux. C'est pas ainsi, hein. Voilà, les gens d'Annecy sont formidables, ils réagiraient pas comme ça, hein. Mais enfin, vous voyez, voilà. Alors, tout ça, ça va assurer notre vigilance. Parole de Dieu, esprit de Dieu, prière personnelle, communion fraternelle. Tout ça, c'est notre part. Vous avez compris? C'est notre responsabilité personnelle. Voilà, ça c'est ce qui nous revient pour être maintenus dans le salut. Maintenant, on a dit que la moitié, hein. Il y a d'autre part la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que sans la grâce de Dieu, tout ce qu'on vient de dire serait nul et non avenu. La grâce de Dieu dans laquelle nous devons avoir foi. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, encore des versets centraux de la parole de Dieu, où il est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie, ce n'est point par les œuvres, n'est-ce pas? Mais donc c'est par la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais c'est aussi par sa grâce que nous sommes maintenus dans le salut. On l'a lu tout à l'heure au début, là, le premier passage que nous avons lu, il était question d'être gardé par la foi, pour le salut, par la puissance de Dieu. Gardé par la foi, pour le salut, par la puissance de Dieu. Attention, c'est pas parce que Dieu est actif dans nos vies qu'il faut dire « Oh !» Du moment que je me suis converti un jour, je ne risque plus rien. Vous savez, ce slogan que certains emploient, une fois sauvé, toujours sauvé, ça, c'est faux. C'est faux. Parce qu'il y a certains textes, notamment dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, au chapitre 10, qui mettent en garde contre le risque d'une rétrogradation définitive. Oui, 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 je le crois, moi. Après avoir connu la grâce de Dieu, on peut être déchu de la grâce et s'écarter totalement du chemin, finalement être perdu. Mais, plaise à Dieu qu'il n'en soit pas ainsi, en tout cas il ne veut pas qu'il en soit ainsi, parce que nous pouvons être sûrs que Dieu mettra tout en œuvre pour nous permettre d'atteindre le but. Amen. Ses promesses sont certaines, et parce que Dieu est fidèle, elles s'accompliront assurément. L'assurance que nous serons, que nous avons, l'assurance que nous avons d'être maintenus dans le salut, réside tout d'abord dans le fait que l'Épître aux Éphésiens nous dit que en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ça donne le vertige, hein. Trouvez pas? Avant la fondation du monde. C'est-à-dire que, avant que Dieu n'ait créé le premier atome de la poussière de l'univers, déjà, Dieu avait prévu en son Fils bien-aimé mon salut et le vôtre. Et il nous avait élus. Éphésiens chapitre 1, verset 4. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Alléluia. De toute éternité, je suis promis, je suis préparé à la gloire éternelle, au plein salut de Dieu, que son nom soit béni. Voilà. Et notre nom, de ce fait, du fait de la décision souveraine de Dieu, notre nom, de ce fait, se trouve inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et l'Écriture nous dit que ce livre de vie de l'agneau, il a été écrit, quand ça ? Depuis la fondation du monde. Vous voyez ? Notre nom, il n'est pas inscrit dans le livre de vie quand nous nous convertissons. Non. Mais il s'y trouve écrit dans le livre de vie. Depuis la fondation du monde, écrit par Dieu qui sait tout. Voilà, au début de mon ministère, quand j'étais un jeune prédicateur, ça m'a passé hein, d'être jeune, voilà, eh bien je disais, voilà, maintenant convertissez-vous au Seigneur, et là-haut dans le ciel, eh bien un ange, ou je ne sais pas trop qui, va inscrire votre nom dans le livre de vie. Mais ce n'est pas vrai ça. Parce que le nom, il y est inscrit depuis la fondation du monde. Hein, vous lirez cela dans le livre de l'Apocalypse, c'est écrit en toutes lettres. Nous pouvons donc nous attendre à ce que les promesses divines s'accomplissent avec une pleine assurance. Vous savez, Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, il parle du bon berger. C'est lui le bon berger, hein ? Alléluia. Et alors, il dit des choses extraordinaires. Par exemple, il dit au chapitre 10, au verset 28, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. » Bon. « Et elles ne périront jamais. » Et personne ne les ravira de ma main. Gloire à Dieu, c'est fort ça. Hein? Voilà. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Personne ne peut me ravir de la main de mon Père. C'est écrit. Dans l'Épître aux Romains, c'est un passage parallèle, en correspondance. Il est dit dans toutes ces choses, dans tout ce qui peut nous arriver, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car, dit l'apôtre, j'ai l'assurance, Romains 8, verset 38, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, il s'agit des mauvais anges, des démons, du diable, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissants, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Je suis sauvé et bien sauvé. Amen. Et je le resterai par la grâce de Dieu. Amen. Cela ne doit pas nous conduire à la désinvolture, à la légèreté, au laxisme, à dire, hop, du moment que Dieu est tout-puissant, quoi que je fasse, c'est pas grave, il s'en tirera toujours. Non, ça doit nous pousser à la foi et à la reconnaissance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'apôtre Paul possédait ce genre de certitude, non seulement quant à lui-même, mais également à l'égard des chrétiens, des églises dont il avait la charge en tant que berger. Et vous connaissez, je pense, ce verset de Philippiens, chapitre 1, verset 6, où il écrit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Chers frères et sœurs, soyez persuadés que celui qui a commencé en vous sa bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, que son nom soit béni. C'est vrai, il écrit ça à l'église de Philippe. Et lorsqu'on lit tout le contenu de l'Épître aux Philippiens, il semble que l'église de Philippe n'ait pas eu de problème particulier, vous voyez, il n'y a pas de mention de désordres moraux ou d'erreurs doctrinales majeures, non. Mais cette même assurance Eh bien, l'apôtre Paul l'avait aussi quant à l'église de Corinthe. Et pourtant à Corinthe, misère. Si dans une rencontre pastorale, on me disait « Ray, tu vas prendre en charge l'église de Corinthe », je dirais « Jamais de la vie ». Parce que des problèmes, il y en avait. Mais cependant, il va leur adresser des reproches sévères. Il va les tenser, les reprendre vigoureusement, sévèrement, l'apôtre Paul. Mais cependant, au début de sa première épître rédigée et adressée à l'église de Corinthe, voici ce qu'il dit Paul. « Il, le Seigneur, vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. » Alléluia. Voilà une pleine assurance que nous devons avoir. Et même quand dans la vie d'un croyant, vous voyez, se produit, on ne le souhaite pas, mais c'est des choses qui arrivent, soyons lucides. Quand dans la vie d'un croyant se produit une chute spirituelle majeure, le Seigneur n'abandonne pas la partie pour autant. Amen. Et il va tout mettre en œuvre pour sortir le coupable de cette ornière. Rappelez-vous Pierre. C'est pas bon quand même ce qu'il a fait, Pierre. Dites, renier Jésus, à qui il avait juré fidélité, le renier à trois reprises. Mais Jésus lui dira, dégage, j'ai plus besoin de toi. Non, c'est pas le genre de discours. Il dira, Pierre, Satan vous a réclamé, toi et tes collègues, là, pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, c'est toi qui affermiras tes frères. J'ai prié pour toi. Vous savez quoi? Il ne prie pas que pour Pierre. Alléluia. Il prie pour vous et il prie pour moi. Amen. Et certainement que lorsque nous entrerons dans la gloire et que bien des choses nous seront révélées, nous nous apercevrons que souvent, plus souvent que nous ne l'avons pensé, eh bien, sans que nous n'ayons eu conscience, nous avons été au bénéfice des prières, de l'intercession du Seigneur Jésus-Christ en notre faveur auprès de son Père céleste. C'est pour ça que, voyez, il va aussi à la recherche de la brebis perdue. On connaît cette parabole, Luc 15. La brebis perdue, autrefois, elle avait fait partie du troupeau. Et puis, elle s'en est éloignée. Mais le bon berger, il va à la recherche de la brebis perdue égarée. Jusqu'à ce qu'il la trouve. Alors, c'est vrai, on se désole quand, du milieu de nous, quelqu'un, eh bien, défaille, quelqu'un s'éloigne, quelqu'un rétrograde. Mais la partie n'est pas perdue pour autant, mes amis. Parce que même lorsque nous avons perdu de vue un tel ou un autre, Dieu, lui, ne l'a pas perdu de vue. Et il va toujours à sa recherche. C'est pourquoi nous pouvons être pleins de foi. Il espère, il attend, il provoque même le retour de l'enfant prodigue. Prêt à l'accueillir, à le pardonner, à le réhabiliter, à lui rendre sa dignité perdue pour lui redonner place dans la famille de Dieu. De telle sorte, que finalement ne sera perdu, j'ai envie de dire que celui qui voudra bien l'être. Hein? Dans la prière sacerdotale, cette magnifique prière que Jésus formule juste avant d'être arrêté puis crucifié, il dit, Seigneur, j'ai gardé, il s'adresse à son Père, j'ai gardé en ton nom tous ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition. Vous voulez parler de Judas. Et Judas, vous savez, s'il s'est perdu, c'est qu'il a bien voulu le faire. Parce qu'il aurait eu maintes et maintes occasions de saisir la grâce du Seigneur. Et même au tout dernier moment, vous savez, quand dans le soir du souper, Jésus lui tend ce fameux morceau de pain trempé dans la soupe, là, dans le plat commun. Hein? Si Judas, là, réalisant que c'était sa dernière occasion, était tombé au pied du Seigneur, en disant, je suis un misérable, Dieu lui aurait fait grâce. Mais il a repoussé définitivement, en toute connaissance de cause, délibérément, la grâce qui était à portée de main. Alors, il est le fils de perdition. Mais en dehors de cela, eh bien, nous pouvons être pleins d'espoir. Et puis, avant même de parler de chute, hein, sachons que la chute, la chute spirituelle n'est pas inévitable. Alléluia! On n'est pas obligé de pécher quand même. On n'est pas obligé de commettre des catastrophes spirituelles, ni vous ni moi. Ça n'est pas une fatalité. Les gens qui disent « Oh, je suis tombé parce que la tentation était trop forte », c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que dans la première aux Corinthiens, chapitre 10, au verset 13, l'apôtre dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, car avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. » Et le texte qui se traduit par « il préparera le moyen d'en sortir » signifie littéralement « il préparera le moyen pour que vous puissiez vous faufiler dans un étroit passage. » Vous voyez l'image, hein? On a dit, on se faufilera dans un trou d'aiguille, mais on passera au travers de la tentation par la grâce de Dieu, si on se confie en lui de tout notre cœur. Même s'il est vrai qu'il peut nous relever de nos chutes, il peut aussi nous permettre de les éviter. Alléluia! J'aime ce verset de l'épître de Jude. Il n'y a qu'un chapitre à l'épître de Jude qui dit ceci, verset 24. « À celui qui peut vous préserver de toute chute, oui, il peut nous préserver de toute chute. Amen. T'es pas obligé de pécher. T'es pas obligé de te détourner. T'es pas obligé d'abandonner le Seigneur, même si c'est que pour quelque temps, en te disant, ah ben après je reviendrai. Non, non, non. Il peut nous préserver de toute chute et vous faire comparaître devant sa gloire, irrépréhensible, c'est-à-dire sans reproche, et dans l'allégresse. Amen. » Dans le psaume 121, vous savez, ce psaume, je crois, qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes », c'est ça, hein? À la fin, dans les derniers versets de ce psaume merveilleux, 121, il est écrit « Il gardera ton âme, il gardera ton départ et ton arrivée. » Alors, bien sûr, quand on se prépare à faire un voyage en voiture, ou un avion, ou un train, ou ce que vous voulez, hein, on dit « Seigneur, tu gardes mon départ et mon arrivée, amen. » Mais je crois qu'il y a autre chose dans ce verset. Croyez pas? Il a gardé notre départ. Un jour, nous avons démarré la course chrétienne. Alléluia! Et il a gardé notre départ. Il nous a permis à faire nos premiers pas, peut-être un peu chancelants, maladroits, mais il nous a gardés, gloire à Dieu. On est encore là, pas vrai? Attachés au Seigneur. Eh bien, de la même manière qu'il a gardé notre départ, il saura garder notre arrivée pour que nous entrions dans le royaume céleste. Gloire à Dieu. Alors, nous pouvons lui faire parfaitement confiance. En conclusion, je vais conclure, rassurez-vous, même si j'étais un peu long. Dans la deuxième à Timothée, je vous invite à lire un dernier texte si vous voulez. Sinon, écoutez-le tout simplement. Deuxième à Timothée, chapitre 1er, verset 12. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. » Voilà ce qui nous intéresse. « Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. » Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Le dépôt, en l'occurrence, c'est notre âme que nous lui avons confiée pour qu'elle soit sauvée. C'est le dépôt de la foi, c'est le dépôt de l'espérance chrétienne. Et nous avons ces deux vérités dont je vous parlais au début qui sont présentes ici. D'abord, Paul dit à Timothée, garde le dépôt par le Saint-Esprit. C'est ta part, Timothée. Veille sur ce dépôt sacré. Garde le bon dépôt. Tu as ta responsabilité personnelle dans l'affaire. Elle est impliquée, ta responsabilité. Et tu dois t'y appliquer sérieusement, scrupuleusement. Garde le bon dépôt. Mais d'autre part, il y a la grâce de Dieu qui permet à Paul de dire « Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Ça, c'est la part de Dieu. Vous comprenez? Il y a ma part, il y a la sienne. Il y a l'entière responsabilité humaine, mais il y a la pleine suffisance de la grâce de Dieu et de la souveraineté divine en laquelle nous croyons, alors que Dieu nous aide, n'est-ce pas, à rester vigilants quant à notre responsabilité personnelle et à être dans la foi quant à la pleine suffisance de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, pour qu'ainsi, vigilance et foi conjointement unies, eh bien, nous puissions être maintenus dans le salut. Que le nom du Seigneur soit béni et soit glorifié. Amen. Vous avez compris? Ou alors on recommence, hein, si vous voulez. Non, hein, on prie le Seigneur. Notre Dieu, notre Père,